Radio Vatican, France et Afrique.
Bienvenue à mes auditeurs et merci d'avoir choisi Radio Vatican pour votre information. Après la synthèse de ce qu'ont été les principales activités du pape au cours de la semaine, nous irons au Ghana avant de dire un mot sur la deuxième assemblée plénière de l'année 2020-2021 des évêques de la conférence épiscopale de Burkina-Niger. Nous vous donnerons ensuite quelques brèves de l'actualité sociopolitique africaine. Comme invité du jour, nous recevrons Madame Deborah Kayembe, élue au début de ce mois recteur de l'université d'Edinburgh en Écosse. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Jean-Pierre Bojoko.
La semaine du pape pour commencer, Camille Moukosso.
Le pape a reçu samedi tour à tour en audience privée le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, le cardinal Angelo De Donatis, vicaire général de sa sainteté pour les diocèses de Rome. Toujours samedi, le cardinal Marcello Semeraro, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, a été l'hôte du pape. À l'issue de cette audience, François a autorisé la publication de la reconnaissance des vertus héroïques des servantes des dieux Floral Barondi, religieuse de la Congrégation des Sœurs de Pauvres des Bergames, décédée à Mosango en République démocratique du Congo, le 25 avril 1995. La servante des dieux Clarangela Ghilardi, religieuse de la Congrégation des Sœurs de Pauvres des Bergames, décédée à Kikwit en République démocratique du Congo, le 6 mai 1995. La servante des dieux Dina Rosa Beleri, religieuse de la Congrégation des Clarisses, Institut Palazzolo, décédée à Kikwit en République démocratique du Congo, le 14 mai 1995. Le Saint-Père a accepté samedi la démission du poste de préfet de la Congrégation pour les cultes divins et la discipline des sacrements présentée par le cardinal Robert Sarra. Toujours samedi, le pape a accepté la démission des fonctions de son vicaire général pour la cité du Vatican, archiprêtre de la basilique papale Saint-Pierre au Vatican et président de la fabrique des Saint-Pierre, présenté par le cardinal Angelo Comastri. Et pour le remplacer, le Saint-Père a nommé aux mêmes fonctions le cardinal Mauro Gambetti, ancien garde général du Sacré Couvent des Saint-François à Assise de 2013 à 2017 avec le titre de supérieur général. Le Saint-Père a envoyé vendredi un message vidéo à l'occasion du congrès sur l'éducation religieuse organisé par l'archidiocèse de Los Angeles aux États-Unis d'Amérique sur les thèmes « Proclamer la promesse ». Dans son message, François félicite les organisateurs ainsi que le participant à ces congrès pour les initiatives entreprises. Il indique aux uns et aux autres qu'ils doivent toujours proclamer la parole des dieux et s'y rappeler que Dieu tient toujours ses promesses. Toujours vendredi, le pape a envoyé un message signé par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin à Mgr Miguel Cabellos, archevêque de Trujillo et président de la conférence épiscopale péruvienne pour la campagne Respire le Pérou, une initiative destinée à collecter des fonds pour donner des respirateurs et du matériel médical aux personnes souffrant de la COVID-19 au Pérou. Mercredi, le pape a présidé dans la basilique Saint-Pierre la messe des cendres, marquant les débuts du temps de carême. Dans son homélie, François est revenu sur le sens de ces temps liturgiques, un voyage des retours à Dieu qui implique de discerner vers où est orienté notre cœur.
Les évêques et membres de la conférence épiscopale du Ghana ont, dans une lettre du vendredi 19 février, condamné les partisans de l'homosexualité dans cette nation ouest-africaine et ont exhorté les autorités gouvernementales à donner sans ambiguïté leur position. Ils mettaient cependant garde contre le fait de soumettre les homosexuels au harcèlement simplement parce qu'ils sont homosexuels. Les évêques et membres de la conférence épiscopale du Ghana réitèrent ainsi le message du pape François dans son exhortation apostolique à Maurice et Laetitia, où il affirme que tout signe de discrimination injuste doit être évité, en particulier toute forme d'agression ou de violence. En marge de leur deuxième assemblée plénière de l'année 2020-2021, les évêques de la conférence épiscopale de Burkina-Niger ont notamment affirmé que la situation sécuritaire demeurait préoccupante dans différentes zones malgré un calme relatif. Ils soulignent en particulier la question irrésolue des évacués qui risquent de créer de nouvelles tensions vu leur nombre encore élevé et la cohabitation difficile avec ceux qui les ont accueillis.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le gouvernement sénégalais a annoncé samedi une nouvelle prolongation pour une période d'un mois du couvre-feu nocturne en vigueur depuis début janvier dans deux régions dont Dakar pour endiguer la progression de COVID-19. Au moins deux soldats et un milicien ont été tués vendredi dans des affrontements de l'armée congolaise et une milice dans la ville de Kisangani dans le nord-est de la République démocratique du Congo.
Radio Vatican, France-Afrique, Jean-Pierre Bodjoko.
Au Gabon, deux hommes ont été tués par balle jeudi soir à Libreville, la capitale, dans des manifestations contre les mesures restrictives de lutte contre la COVID-19. Les États-Unis d'Amérique ont dit vendredi lever la suspension de l'aide destinée à l'Éthiopie décidée par l'administration Trump du fait du controversé super barrage construit par Addis Abeba et ont appelé de leur vœu à une solution diplomatique impliquant l'Égypte et le Soudan. Le père Antoine Kériouël, secrétaire général de la Compagnie de Jésus, nous introduit à la méditation avec les lectures du premier dimanche de Carême.
En ce premier dimanche de Carême, nous entendons l'apôtre Pierre affirmer « Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges ainsi que les souverainetés et les puissances. » Il est important d'accueillir ces paroles alors que nous entrons dans ce temps de préparation au mystère de Pâques, qu'est le carême. Le baptisé n'a pas acquis un statut édifiant, comme serait celui concédé à un être regardé comme pur ou parfait. Engagé envers Dieu avec une conscience droite, le baptisé devient comme un pèlerin qui marche sur une route déjà empruntée par quelqu'un d'autre avant lui, Jésus-Christ, qui par sa passion et sa résurrection est chemin vers la vie. Le carême nous permet d'examiner où nous en sommes sur cette route. Sans doute trouverons-nous des moments où négligence, erreur, voire même trahison, nous ont conduits à l'égarement. Puissions-nous profiter de ce temps pour accueillir la miséricorde de Dieu, toujours offerte dans notre itinéraire de baptisé. Pour mener à bien cet exercice, nous avons besoin d'une boussole, et celle-ci nous est donnée en ce jour par le mot « alliance ». La première lecture de ce dimanche évoque ce qui ressemble bien à une seconde création. Après le déluge qui a plongé sous les eaux la terre et tous les êtres vivants qui y habitaient, à l'exception de quelques-uns d'entre eux, Dieu, selon le livre de la Genèse, s'adresse ainsi à Noé et à ses fils. « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Pour Dieu, le déluge n'est donc pas la fin de l'histoire, mais l'occasion d'établir une alliance avec tous les êtres vivants. Dans la Bible, ne l'oublions jamais, même lorsque nous traversons de lourdes épreuves personnelles ou collectives, le mot « alliance » est central. Celui qui est la source de la vie ne laisse pas la mort dominer sa création. Il fait alliance avec nous, et cette alliance est comme une boussole sur notre route. Dans l'évangile de Marc, lu ce dimanche, il nous est dit qu'après son baptême, Jésus se trouve poussé au désert par l'Esprit, et que là, il y est tenté pendant 40 jours. Marc ne détaille pas les tentations comme le font les évangélistes Matthieu ou Luc. Il suggère plutôt l'intensité de la lutte menée par Jésus contre l'accusateur Satan. Jésus sort de ce combat avec la mission de proclamer une heureuse nouvelle, la bonne nouvelle. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. L'alliance dont il était question dès le récit de la Genèse prend la forme d'une personne, Jésus, qui par ses paroles et par ses actions conduit l'humanité vers la vie. Nous pourrions dire que, comme baptisé, notre boussole a un visage, celui de Jésus. Puissions-nous, durant ce carême, nous ouvrir à la façon dont Jésus nous guide sur un chemin de profonde alliance avec Dieu. En marchant derrière lui jusqu'à l'expérience de Pâques, nous nous engageons sur une route qui, à travers la passion et la résurrection, conduit à la vraie vie. Nous découvrirons ainsi que Jésus, mort et ressuscité pour nous, est la figure de l'alliance que Dieu scelle avec chacun d'entre nous et avec l'humanité entière.
l'invité du jour.
Notre invité du jour est Madame Deborah Kayembe. Originaire de la République démocratique du Congo, Madame Kayembe a été élue rectrice de l'Université d'Édimbourg en Écosse le 1er février dernier. Elle devient ainsi la troisième femme et la première personnalité noire à occuper ce poste depuis la création de l'Université d'Édimbourg en 1858. Elle entrera en fonction très prochainement et dans cet entretien qu'elle nous a accordé, elle revient notamment sur le parcours qui l'a conduit jusqu'en Écosse. Suivez.
J'ai parcouru ma vie à la défense des droits de l'homme et les droits des migrants au Royaume-Uni. Mais récemment, j'avais lancé un programme contre le racisme à cause des abus racistes que ma famille a fait face pendant plusieurs années au Royaume-Uni.
Nous allons y revenir au cours de cet entretien. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être comme ça la première femme noire et d'origine africaine, précisément d'origine de la République démocratique du Congo, d'occuper un tel poste si important de recteur ou rectrice d'une grande université?
D'abord, c'est un sentiment de fierté. Au-delà, un sentiment de gratitude à la République démocratique du Congo qui m'avait donné cette possibilité à être formée, éduquée, à mes parents, ceux qui m'ont élevée, qui m'ont donné l'éducation que j'ai eue, mais aussi une révolution qui montre au monde entier que vous ne pouvez pas juger les personnes par rapport à la couleur de leur peau ou par rapport aux parties du monde où ils sont nés. Jugez-les par rapport à leurs capacités.
Et vous êtes aussi avocate?
Oui, j'ai joint le barreau de Matadi en 2000. J'ai continué ma carrière d'avocat jusqu'à joindre la Cour pénale internationale en 2011.
Parlons maintenant un peu de votre parcours. Parcours marqué effectivement par ce que vous avez fait dans votre pays d'origine, la République démocratique du Congo. Vous êtes avocate, vous venez de le dire, mais c'est marqué aussi par la migration. Comment vous vous êtes retrouvée en fait en Écosse ou en Royaume-Uni?
Vous vous souvenez en 2003, lorsque nous venions d'arrêter la guerre qui se faisait à Bunia, et que le gouvernement d'antan, le gouvernement Joseph Kabila, voulait faire des concertations nationales. Et j'avais été invitée comme l'un des conseillers de l'équipe de la société civile, à partir des Touches Noires. Je me souviens encore de mes amis de lutte des droits de l'homme, comme le feu Floribert Chebeya et le feu André Mila Kayembe. Nous avons tous voyagé en Afrique du Sud pour discuter du nouveau Congo. En ce moment-là, l'idée, c'était de créer les organisations démocratiques qu'on appelait l'Organisation des droits de l'homme, qui existait dans le temps. J'étais le conseiller spécial du président du comité des droits de l'homme en ce moment-là. J'avais fait une pétition auprès du président pour demander à ce que nous puissions aller à Bunia, qui en ce moment-là était encore un territoire occupé, pour investir à savoir quelles étaient les raisons de ces violations massives des droits de l'homme, particulièrement à la femme. On a eu un voyage très, très, très dangereux. Je me souviens que nous avions quitté Kinshasa, nous avons atterri en Ouganda, et de l'Ouganda, nos passeports nous ont été pris, on nous a donné un laissez-passer des Nations Unies, et ensuite on est retourné au Congo pour atterrir à Bunia. Et nous y sommes restés pendant 4 jours. Tout ce que nous avions fait, c'était d'écouter les témoignages des victimes de guerre. Vraiment, l'être humain est capable de beaucoup de choses, mais ce que moi j'ai vu à Bunia était inacceptable. Je vais devoir un peu rester sur ce point-là, parce qu'il y a encore des éléments qu'il faut encore garder, mais pas emmener publiquement. C'est en ce moment-là que je retourne au Congo avec un rapport écrit et dans lequel ils avaient été menacés de mort.
Donc le rapport de ce que vous avez vu à Bunia?
Oui, oui. Et des noms qui ont été cités, des noms gênés en ce moment-là. Alors, on arrive à Kinshasa. Je crois que c'était dans les 2 semaines, lorsque mes amis défenseurs de droits de l'homme m'écoutent, on te cherche partout. Il va falloir que tu partes d'ici. Avec leur aide, leur soutien, ils sont tous partis aujourd'hui. Que Dieu bénisse leur âme, que Dieu les protège. Ils ont fait des sacrifices pour me garder en vie. Donc, j'ai quitté le pays et je me suis retrouvée au Royaume-Uni. Donc, c'est ça mon histoire.
Et votre intégration au Royaume-Uni, et précisément en Écosse, là où vous vous retrouvez maintenant, a été facile ou bien c'est une intégration qui a quand même été aussi marquée par beaucoup d'autres choses comme le racisme par exemple?
Mon intégration au Royaume-Uni était, et là, jusqu'à ce jour, la chose la plus difficile que je n'ai jamais vécue dans ma vie. Un parcours plein de clous, d'inacceptance, parce que la réalité est que le Royaume-Uni est un pays anglophone. Ça, c'est la première des choses. Je revenais d'un pays francophone, avec une formation et une éducation francophone. Au Royaume-Uni, c'est inacceptable. Lorsque vous avez fait autant d'années d'éducation dans votre pays d'origine francophone et que vous venez au Royaume-Uni, d'abord, il va falloir prouver votre niveau d'anglais et ensuite, quelle que soit l'éducation que vous voulez suivre, vous devez tout recommencer à zéro. Ça, c'est ce qui m'a été dit en ce moment-là quand je suis arrivée. Mais pendant le processus d'installation au Royaume-Uni, lorsque j'ai vu la bavure, la manière dont les interprètes travaillaient avec une certaine incompétence que je n'ai jamais vue dans le système d'immigration britannique et pour lequel le système d'immigration ne disait rien, je me suis dit non, il va falloir qu'on aide un peu ici. Il y a des compatriotes qui viennent ici, qui souffrent, qui ne savent pas raconter leur histoire parce que l'interprète est tout simplement incompétent. C'est en ce moment-là que je me fais un travail de volontariat en tant qu'interprète pour les langues comme le swahili, le lingala et le français. Alors, ma réputation va très rapidement parce que je présente un travail très compétent et les services d'immigration m'enrôlent immédiatement pour travailler en tant qu'interprète. L'avantage pour moi, c'est que je devais gagner de l'argent qui était suffisant pour moi pour recommencer ma carrière en tant qu'avocat au Royaume-Uni. Au bout de 6 ans, j'avais suffisamment d'argent pour retourner en tant qu'avocat et travailler dans l'entretemps. Mais dans l'entretemps aussi, j'ai joint la Cour pénale internationale sans problème. Je suis admise en tant qu'avocat dans l'unité des victimes de guerre et je continue ma carrière sans problème. Mais au Royaume-Uni, ma qualification en tant qu'avocat n'est pas toujours acceptée. Alors, lorsque je fais ma demande de pratiquer le métier d'avocat au barreau de Londres, les barreaux de Londres rejettent mon application. Ils disent que non, vous avez été formé dans un pays francophone. Vous venez dans un pays anglophone, vous devez rentrer à l'université, étudier comme tout le monde, comme tous les jeunes enfants. Mais dans la lettre qu'ils m'écrivent, ils disent « Votre qualification académique équivaut à un diplôme d'études supérieures en droit international en Écosse. » Alors je me suis concentrée sur ça, sur cette phrase-là. C'est alors que je vais introduire une nouvelle dossier au barreau d'Édimbourg. Lorsque j'introduis ce dossier au barreau d'Édimbourg, mon dossier est accepté. Mais l'argent que ça coûte de reprendre les activités, de répondre à cet avocat est énorme. Avec la condition, c'est que vous devez quitter l'Angleterre parce que la loi qui est appliquée en Écosse n'est pas appliquée en Angleterre. Et venir habiter en Écosse. C'était une imposition du barreau de l'Écosse, d'Édimbourg en ce moment-là. C'est alors qu'après avoir passé des années très difficiles, un divorce très difficile avec mon époux, je prends 2 enfants, bébés de 4 et 5 ans, dans un taxi avec un camion. Nous voyageons 6 heures du temps de l'Angleterre à Édimbourg. Je me souviendrai toujours de ce jour lorsque j'arrive aux frontières entre l'Angleterre et l'Écosse. Je demande au taxi de s'arrêter et je lis les pancartes qui disent « Soyez la bienvenue en Écosse, le pays des braves ». C'est ma fille qui me pose la question. « Maman, c'est écrit quoi ?» Alors je dis « Soyez la bienvenue en Écosse, le pays des braves ». Je dis « Je suis une brave femme. Allons-y ». J'arrive donc en Écosse le 19 décembre 2011. Mais déjà, avec l'expérience des années en tant que traductrice, je suis un produit très recherché en Écosse. Tout le monde voudrait mes services. C'est alors que je vais joindre le Conseil national des réfugiés en tant que volontaire. C'est là que le Conseil me découvre et découvre la réalité d'être réfugié ou être immigré en Grande-Bretagne. Je commence à démasquer des lois ou des programmes qui existent et qui complètement écartent les individus qui viennent d'un autre pays.
Donc, écartent une catégorie de personnes.
Voilà. Vous êtes ciblé parce que vous n'êtes pas né en Angleterre. Vous êtes ciblé parce que vous n'avez pas étudié en Grande-Bretagne. Et vous êtes ciblé parce que vous êtes né dans un autre continent. Et ça devient mon cheval de bataille pendant toutes ces années. Et le 30e anniversaire du Conseil national des réfugiés en Écosse est célébré au Parlement. Et je suis invitée à faire un discours ce jour-là. Beaucoup d'organisations maintenant commencent à m'écouter. Et l'Académie nationale écossaise, ce qu'on appelle le Young Academy of Scotland, m'invite à joindre cette académie. Ils me disent qu'on voudrait t'avoir ici en tant que l'un de nos membres. Mais je devrais aller passer une interview à la Société Royale d'Édimbourg, dont le propriétaire est le mari de la reine d'Angleterre, le prince Philippe. Je vais à cet endroit-là, dans cette avenue qui est la plus chère d'Édimbourg, et j'entre dans cet immeuble. C'est un labyrinthe, c'est grand. Et dedans, vous avez des portraits géants des gens qui ont changé le monde, qui ont révolutionné la médecine. Tous nés et grandis en Écosse, mais qui ont quitté l'Écosse et sont allés partout ailleurs. Leurs portraits sont là et je m'assois dans une salle où je suis entourée de ces portraits. Ce sont des portraits des hommes blancs, il n'y a aucune femme.
Et ça vous a marqué?
Ah, ça m'a marqué parce que immédiatement je regarde tout autour et je me dis, la prochaine fois qu'il y aura un noir dans ces murs ici, ce sera pour vraiment dans 100 ans. Alors, j'entre, je fais mon interview, il me dit de tourner chez vous, on va vous envoyer notre décision par email. Sur mon chemin de retour, avant même que j'arrive à la maison, un email me parvient que je suis acceptée et je suis la première africaine à être acceptée dans cette institution. Après 176 ans, je me suis dit, oh, ça c'est quelque chose. Je suis dans la partie junior du Royal Society of Edinburgh parce qu'il y a une partie senior. la partie senior qui n'attend même pas que je termine mes 4 ans d'appartenance à cette partie junior pour faire partie des groupes de travail. Les groupes de travail sur le Brexit, je m'assois dedans et je représente les intérêts des minorités. Maintenant, c'est la création du groupe de travail pour l'Afrique. La Société royale d'Édimbourg crée cette commission de travail pour identifier dans le continent africain des organisations qui peuvent travailler avec l'Écosse dans le domaine de l'éducation, l'histoire, la santé, la femme. Et je suis invitée à m'asseoir dans ce groupe de travail en tant que l'avocat expert sur la question africaine. On continue jusqu'au mois d'août en 2019 lorsque je reçois un coup de fil pour me dire que les seniors de la Société royale d'Édimbourg ont décidé d'ériger un portrait en mon honneur à cause du travail que j'ai fait depuis que je rejoins l'Académie. J'ai dit, mon portrait sera là, dans le mur de la Société royale. Oui, ça sera là.
Et parmi tant d'hommes, et comme vous aviez souligné, parmi les Blancs.
Parmi les Blancs, ouais, une femme noire, une Africaine. Donc, le 13 septembre 2019, mon portrait est érigé. C'est incroyable, c'est du jamais vu. Je continue à contribuer à la société écossaise d'une manière très active et j'amène de plus en plus cet agenda de ne pas exclure les gens parce qu'ils sont nés dans un autre pays, parce qu'ils ont étudié dans un autre pays. Regardez ce qu'il y a dans leur tête. Veillez sur ce qu'ils sont en train de vous présenter. À la mort de George Floyd aux États-Unis, il y a eu une sorte de réaction mondiale partout dans le monde contre le racisme. Mais pendant ce temps-là, lorsque le Covid arrive, et moi je tombe malade, donc je suis chez moi et je ne sais pas sortir. Mais le jour où le système de santé écossais m'autorise de sortir, après avoir été établi que je n'ai aucun problème avec le Covid, j'entre dans ma voiture, je vais faire des achats. Édimbourg est une ville montagneuse. C'est lorsque ma voiture bascule brutalement. Et je sors de la voiture et je vois que des individus ont mis des clous dans mon véhicule. C'était la chasse à tous ceux qui sont noirs et qui émergent dans la société écossaise. Les plans de nous faire du mal. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, moi, je ne peux plus tolérer ça. Alors, je crée le mouvement qu'on appelle le Freedom Walk, la marche de la liberté, où tous les citoyens, quel que soit où ils sont, partout ils viennent, travaillent pour une société équitable et juste. Et ça, c'était l'agenda que je voulais mettre sur la table. Je dis, écoutez, ceux-là qui continuent à amener ces mouvements racistes et qui continuent à attaquer les personnes qui veulent la positivité dans notre société, nous devons les rapprocher, avoir un dialogue avec eux. Alors ça, que ce soit le gouvernement écossais, que ce soit la société civile écossaise, que ce soit les mouvements des droits de l'homme écossais, ils ont tous embrassé ça.
Donc, madame, on peut dire que vous êtes passée d'un combat à l'autre. Le premier combat, vous l'avez commencé déjà dans votre pays, la République démocratique du Congo, et vous l'avez continué au Royaume-Uni et précisément maintenant en Écosse.
Effectivement, mon combat est parti d'un état par un autre, mais seulement je ne savais pas que ça allait m'amener là où ça m'a amené aujourd'hui.
Et comment s'est fait le passage maintenant de ces combats que vous continuez encore à mener au monde universitaire?
Je n'ai pas vraiment un contact direct avec le monde universitaire. J'ai œuvré dans le domaine de l'éducation à travers la Société royale d'Édimbourg, qui est l'Académie nationale écossaise. Mais seulement au mois de novembre, les représentants des syndicats, des travailleurs de l'université.
Novembre 2020.
Voilà, novembre 2020. C'est en ce moment-là qu'ils vont m'envoyer un email pour me dire, Déborah, nous avons eu notre réunion aujourd'hui. Le prochain recteur de l'université d'Édimbourg sera élu au mois de février prochain. Et nous avons décidé de te choisir, toi, comme candidat aux prochaines élections. Je me suis dit, moi? Est-ce que vous savez que cette université, c'est l'université la plus conservatrice au monde? Vous prenez une personne noire pour être candidat recteur? C'est dans ce moment-là que je vais répondre à l'email pour me dire, je voudrais vous parler, vous qui m'avez choisi. Alors, on a une réunion avec eux. Je leur ai posé la question, pourquoi moi? Ils disent, le travail fait par rapport au racisme dans ce pays nous a ouvert les yeux. Nous avons compris que nous sommes tombés dans un trou dans lequel il est en train de ronger notre société. Et on voudrait que maintenant, ce travail puisse être imbibé dans l'éducation écossaise à travers l'université et que cela puisse permettre de vous exprimer et que le monde entier puisse vous écouter. Parce que ce poste-là est un poste politique, ça c'est vrai, mais beaucoup de personnes seront intéressées d'écouter le recteur de l'Université d'Édimbourg qui amène un agenda antiraciste dans l'éducation écossaise. C'est là que tout est parti.
En vous écoutant, quel message pouvez-vous avoir pour les hommes et les femmes qui luttent pour la vie contre les préjugés, contre le racisme, contre la violence, puisque vous-même, vous êtes vraiment un témoin direct de certains de ces problèmes qui touchent la société aujourd'hui?
L'un des premiers messages que je voudrais lancer, c'est que ne retournez pas le mal au mal. Il y a une puissance derrière le pardon. Connaître le mieux les personnes qui sont en train de vous persécuter vous permettra de connaître le contexte de cette situation dans laquelle vous vous retrouvez. Ça, c'est la première des choses. Soyez tolérant de ceux-là qui sont en train de vous juger. S'il vous plaît, continuez à promouvoir le dialogue. Dialoguez avec eux. Ne les éloignez pas. Il y a toujours quelque chose derrière ces injustices. Quelquefois, c'est personnel. Quelquefois, c'est public. Quelquefois, ce sont des antécédents de leur propre famille. Ayez ce sens d'ouverture, d'approcher ces gens-là. C'est très important.
Est-ce que vous avez un mot de la fin pour conclure notre entretien?
Il ne faut surtout pas abandonner vos droits. Apprenez à respecter votre droit et respectez aussi les droits des autres. Lorsque vous êtes persécuté, ne rendez pas le mal pour le mal. L'avenir nous réserve beaucoup de choses. Nous avons le plus grand combat entre nos mains. Le Covid-19 nous amène un combat de l'invisible qui ne choisit ni la couleur de la peau, ni l'âge, ni le contexte dans lequel il attrape les personnes. C'est le moment pour nous tous de construire un monde juste et équitable.
Madame Deborah Kayembe, originaire de la République démocratique du Congo, rectrice élue de l'Université d'Edimbourg en Écosse.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme. Aujourd'hui, au nom de toute l'équipe du service français Afrique de Radio Vatican, Jean-Pierre Bojoko vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Le rendez-vous, c'est pour demain. Même heure, même fréquence, même radio.